Eh bien voilà, nous y voilà, nous y voilà. Dernier chapitre du dernier thème. Et alors là, ils ont fait très très fort dans le programme, puisque on a un titre qui pour une fois est très court, très clair, très direct, mais qui pose énormément de questions, puisque ce chapitre 3 s'intitule tout simplement La République française. Il y aurait beaucoup à dire sur le titre, parce que la République française, il y a eu plusieurs républiques déjà, et on peut considérer que l'ensemble des républiques, c'est la République. Là, c'est évidemment la République française, en gros, depuis la fin des années 80. Donc on a un titre qui est extrêmement vague, et les explications qui l'accompagnent sont assez confuses, elles aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même en passant des épreuves de manière classique dans l'année terminale, c'est un chapitre qui ne tombera jamais. Et c'est bien une des particularités de toutes ces questions historiques proches de nous. Pendant longtemps, il y avait un principe qui était que on n'étudiait pas les 10 dernières années. Voilà. Donc les programmes s'arrêtaient toujours 10 ans avant l'année du bac. Comme ça, on était tranquille. Aujourd'hui, on doit étudier jusqu'à nos jours, mais, il y a une astuce qui est que on a très peu de temps pour le faire, et en plus, donc, ça tombe après les dernières épreuves. Donc, c'est tranquille, on risque pas de se perdre dans les détails. Donc, la République, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut montrer les évolutions constitutionnelles et juridiques de la République française. Voilà. Donc, c'est presque politologue. Qu'il faut en politologue qu'il faut regarder tout ça, voire en sociologue pour certaines questions. Je vous rappelle que nous, on est censé faire de l'histoire, donc on va essayer de mixer tout ça. Donc, cette République française, c'est bien évidemment la Ve République. Je ne vais pas me perdre dans un retour en arrière. On sait que cette Ve République, elle naît en 1958, qu'elle est conçue par De Gaulle pour De Gaulle, et que sa particularité principale, c'est qu'elle rompt avec les traditions des 3e et 4e républiques réputées instables pour aboutir à un système dans lequel le poids du président de la République est réévalué. Et un système donc que certains qualifient de système semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Ça n'est pas le système américain, ça n'est pas le système britannique non plus, parfaitement parlementaire. On est entre les deux. En quoi est-ce que cette République française, elle a donc évolué depuis les années 80, la fin des années 80? On s'était arrêté pour la France en 1988, au moment où commençait le deuxième septennat de François Mitterrand. Eh bien, elle a évolué donc au niveau de ses institutions. On vous avait déjà parlé de la cohabitation, ce système qui faisait que on pouvait se retrouver avec un président de la République de gauche, Mitterrand, et un premier ministre, un chef du gouvernement et donc une assemblée majoritairement de l'autre bord, de droite. C'était arrivé entre 86 et 88 et je vous avais expliqué que bah, globalement les Français, ils avaient plutôt apprécié le fait d'être gouvernés par des gens qui, un petit peu, c'est l'impression que ça leur donnait, se souciaient peut-être un petit peu plus de l'intérêt des Français plutôt que de l'intérêt de leur bord politique. Bon. côté classe politique, on n'a pas trop aimé ce système-là. Évidemment, chacun, quand on a le pouvoir, on veut l'avoir de manière totale. Un manque de bol pour eux, ça va se reproduire à deux reprises. François Mitterrand est réélu en 1988. Il fait donc un deuxième septennat, mais au bout de 5 ans, il y a des élections législatives, on élit des députés. Comme la situation économique de la France n'est pas brillante, c'est une élection sanction contre la gauche, et notamment la gauche socialiste, à laquelle appartient François Mitterrand, et on se retrouve avec à nouveau une majorité de droite. Jacques Chirac, qui s'est fait avoir une fois en 86, décide cette fois-ci de décliner la possibilité de reprendre la tête du gouvernement pendant 2 ans jusqu'à la future élection présidentielle qui est prévue en 1995. Pour éviter tout problème, il choisit comme candidat à Matignon, c'est-à-dire au poste de Premier ministre, son ami de 30 ans, comme il dit, Édouard Balladur. Et donc Édouard Balladur va être Premier ministre pendant 2 ans, de 1993 à 1995, 2 années pendant lesquelles Balladur fait un petit peu tout pour ne pas faire de vagues. C'est un petit peu l'idée. Entre 1986 et 1988, Chirac, il a voulu s'imposer et il a perdu l'élection présidentielle dans la foulée. Là, l'idée, c'est on ne fait pas de vagues, on laisse faire les choses, on ne prend pas de décisions trop impopulaires. L'idée, c'est que en 1988, Chirac soit, pardon, 1988, pardon, en 1995, Chirac soit candidat à l'élection présidentielle et l'emporte. Sauf que les choses vont pas se passer exactement comme on l'avait prévu. Balladur devient extrêmement populaire, forcément, en ne faisant rien, on ne mécontente personne, et donc il lui prend la fantaisie de se présenter lui aussi à l'élection présidentielle de 1995. Donc on se retrouve en 1995 avec deux candidats issus du même parti, qui est donc le parti... l'ancien parti gaulliste. On a donc Balladur d'un côté qui a tout pour lui, les sondages, l'opinion publique, le soutien des médias, et de l'autre Chirac qui apparaît comme une sorte de loser perdant magnifique qui va à nouveau s'écrabouiller. À gauche, la succession de Mitterrand est difficile. Celui qui va prendre la place finalement de principal candidat de gauche, c'est Lionel Jospin. Et dès le début, on ne donne pas beaucoup de chance à Lionel Jospin. On imagine même que Balladur pourrait être élu au premier tour de l'élection. Or, surprise, plus on se rapproche de l'élection, plus la cote de Balladur baisse, plus celle de Chirac remonte, et plus finalement Jospin réussit finalement à rassembler autour de lui un petit peu la gauche. Au soir du premier tour, Balladur est exclu de la course à la présidence. On se retrouve avec un deuxième tour Chirac-Jospin, et donc en mai 1995, Chirac arrive enfin à être président de la République. Sauf que, bien évidemment, toutes les réformes que l'on n'avait pas voulu faire entre 93 et 95, une fois élu, Chirac et son premier ministre Alain Juppé veulent les faire. Donc, on se lance, on fait des réformes extrêmement impopulaires, grand mouvement de grève à la fin de l'année 1995. Et plus on avance dans le temps, et plus il apparaît que si on attend 1998 pour faire les nouvelles élections législatives à la date où elles sont prévues, ça va être une catastrophe. Donc voilà pourquoi en 1997, l'entourage de Chirac lui conseille une idée géniale. On dissout l'Assemblée, on fait des élections législatives plus tôt que prévu, à un moment où il dispose encore d'une certaine forme de sympathie auprès des Français, et donc où on va remporter ces élections législatives. Et en plus, si on gagne les élections législatives en 1997, comme le mandat présidentiel est de 5 ans, on est tranquille jusqu'en 2002, qui est la fin du mandat présidentiel de Chirac. Sauf que le calcul est foireux, c'est la gauche qui remporte ces élections, une gauche qu'on qualifie de gauche plurielle, puisque on trouve dans cette alliance à la fois des socialistes, des écologistes, des communistes, des radicaux, et c'est Lionel Jospin, l'ancien challenger de Chirac aux élections présidentielles de 1995, qui devient Premier ministre. Mais cette fois-ci, la cohabitation est partie pour durer non pas 2 ans, mais 5 ans. Donc, que ce soit à droite ou à gauche, cette idée de cohabitation, on ne veut plus en entendre parler. Et c'est ce qui va aboutir à une réforme fondamentale de la 5e République. En l'an 2000, on décide de réduire la durée du mandat présidentiel en disant « mais vous comprenez, 7 ans, c'est trop long, etc. etc. » En fait, l'idée, c'est que le mandat présidentiel dure aussi longtemps que le mandat des députés. On pourra donc faire en même temps l'élection présidentielle et l'élection des députés. Donc le président de la République, une fois élu, pourra s'appuyer sur une majorité pendant 5 ans. C'est extrêmement bien pensé, mais ça a des effets pervers, hein, que l'on va présenter très très rapidement. L'avantage, c'est que ça stabilise le pays. Il n'y a plus de risque de cohabitation. Voilà. L'inconvénient, c'est que le président de la République se trouve de cette manière-là extrêmement renforcé, puisque finalement, le Premier ministre, comme le dira un peu plus tard Nicolas Sarkozy, le Premier ministre n'est finalement que son collaborateur. Si dans les textes, c'est le président de la République qui est le chef de l'État et le Premier ministre le chef du gouvernement, dans la réalité, on tend à ce que tout se décide dans le bureau du chef de l'État et que le Premier ministre ne soit qu'une forme de courroie de transmission, finalement. Hein ? Regardez aujourd'hui avec Jean Castex. Je referme la parenthèse. Donc, en fait, ce quinquennat, cette élection pour 5 ans, elle va avoir pour conséquence que, finalement, le président de la République changera son Premier ministre lorsque le Premier ministre sera usé, c'est-à-dire lorsque il aura pris trop de coups de la part des médias, d'opinion publique, qu'il lassera, qu'il sera jugé fatigué, hop, on changera. On ne changera pas forcément de politique, on change juste le bonhomme. Et Nicolas Sarkozy va pousser le truc encore plus loin, puisque lui, il va garder le même Premier ministre pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 5 ans, vous avez le même président de la République et le même Premier ministre. Autre inconvénient de ce nouveau système, l'élection présidentielle qui était déjà l'élection la plus importante de la vie politique en France sous la 5e République devient encore plus importante puisque finalement l'élection des députés n'a plus grande importance. Vous n'allez pas même si les Français sont des gens particuliers, vous n'allez pas élire un président de droite au mois de mai et faire une majorité de gouvernement de gauche au mois de juin. C'est impossible, c'est impensable. Si les Français ont voté à droite en mai, ils voteront à droite en juin. S'ils ont voté à gauche en mai, ils voteront à gauche en juin. Ça s'est vérifié sur le quinquennat de Jacques Chirac de 2002 à 2007, quinquennat de Sarkozy de 2007 à 2012, le quinquennat de Hollande en 2012 jusqu'à 2017, et c'est encore plus manifeste en 2017, puisque Emmanuel Macron est élu président à la tête d'un parti, La République en Marche, qui vient tout juste d'être créé. On va prendre des gens qui n'ont pas forcément eu des activités politiques jusque-là, qui vont se présenter. On les connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait pas qui ils sont, mais c'est les candidats du président. Et voilà comment le parti qui n'existait pas un an avant se retrouve avec la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien l'évolution du régime avec un poids du président de la République, un poids de l'élection présidentielle qui est encore plus important. Dans les réformes institutionnelles, il y en a une qu'il faut particulièrement évoquer parce que, déjà c'est dans le programme, et ensuite parce qu'elle a un fort impact dans notre vie de tous les jours, c'est la décentralisation. La décentralisation, on en a rapidement parlé à propos du tournant de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. La décentralisation, c'est ce principe qui veut que, au lieu que toutes les décisions soient prises dans la capitale, dans les ministères, une partie des décisions pour des aménagements, pour des politiques particulières, soient prises soit dans les communes, soit dans les départements, soit dans les régions. Donc la première vague de décentralisation, c'est donc sous Mitterrand, début des années 80. Il y a une deuxième vague de décentralisation qui se fait entre 2002 et 2005, au début du quinquennat de Jacques Chirac. Et puis, la décentralisation, elle continue avec des réformes sous Sarkozy, sous François Hollande. Quel est l'impact de cette décentralisation? Eh bien, aujourd'hui, de plus en plus de décisions sont entre les mains des communes, des départements, des régions, mais aussi d'une nouvelle structure qui est apparue en 2014, qui est la structure des métropoles. Et la conséquence de ça, c'est que, alors que jusqu'alors, en France, il y avait une forme, finalement, d'unité, les décisions que l'on prenait étaient un petit peu les mêmes pour tout le monde, bien on voit, selon les régions, des choix qui sont faits différents. Je prends un exemple dans ce que je connais bien, la gestion des chemins de fer. Les TER, les trains régionaux, sont gérés différemment selon les régions. Les régions font des choix différents. Certaines choisissent de favoriser le transport par le train. C'est par exemple ce que fait la région Occitanie. D'autres vont même plus loin. Elles créent carrément des compagnies de chemins de fer font travailler la SNCF en sorte de prestataire, c'est-à-dire que c'est le cas par exemple dans la région Centre et les Pays de la Loire, vous avez un truc qui s'appelle Rémy. Rémy, c'est une compagnie ferroviaire particulière qui ne dépend plus de la SNCF que parce qu'elle fait travailler des agents de la SNCF. Tout le reste appartient à la région, y compris les motrices, les wagons, etc. Donc la décentralisation, elle crée finalement de l'inégalité dans le pays, ce qui n'était pas l'idée de base. L'idée de base, c'était que on s'adapte au mieux aux besoins de chacun. Là, je vous ai donné des exemples de régions où les choses se passent bien, mais si vous allez écouter ce qui se dit dans la région de Normandie, les gens n'arrêtent pas de se plaindre du sous-équipement ferroviaire, etc., etc. Donc chacun fait ses choix et ces choix, évidemment, sont plus ou moins bien accueillis par les habitants des différentes régions, des départements, voire des métropoles ou des communes. Une autre conséquence de la décentralisation, c'est que de plus en plus, l'État se déleste d'un certain nombre de prérogatives, de choses qu'il faisait lui auprès des régions. Et ça rentre dans un calcul qui est un calcul que l'on retrouve sur les 15 dernières années, c'est la volonté de dépenser de moins en moins. L'idée, c'est l'État doit dépenser de moins en moins. Donc, il confie aux régions ou aux départements le soin de s'occuper de choses dont l'État s'occupait avant. Donc, ben, occupez-vous des routes, occupez-vous des voies ferrées, occupez-vous de gérer les personnes âgées, occupez-vous de gérer les collèges, les lycées, vous connaissez ça depuis longtemps. Le seul souci, c'est que l'État qui devait donner des sommes d'argent pour faire ces différentes missions, se montre parfois un petit peu pingre. Donc on se retrouve avec des régions qui ont beaucoup de choses à faire et pas beaucoup d'argent pour le faire. Donc ça, c'est une autre évolution de notre système politique avec un État qui continue, que ce soit sous Macron, sous Hollande, sous Sarkozy, qui continue à essayer de dire aux Français, mais nous sommes là, nous vous protégeons, etc., etc., mais qui, dans la réalité, a délégué à d'autres le soin de faire ce que lui, il faisait avant. Je vous ai expliqué la décentralisation, ce délestage des fonctions que faisait l'État peut aussi se faire avec le secteur privé. Il y a tout un tas de missions qui se faisaient avant avec des services de l'État, qui se font aujourd'hui avec des services privés. Voilà. Avant, vous aviez des systèmes pour nettoyer les routes, etc. Ça dépendait des départements. Aujourd'hui, on peut faire appel à des entreprises privées pour faire la même chose. Donc, une évolution importante de ce régime de la République, dans ses logiques, faut juste, je le place très très rapidement, préciser que sous Nicolas Sarkozy, une réforme a été faite de la Constitution, avec bon, des modifications de détails dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais il y en a une qui est importante, qui est que aujourd'hui, un président de la République ne peut faire que deux mandats. On n'a pas la possibilité donc d'empiler les mandats, d'être réélu sans arrêt. Si Emmanuel Macron est réélu en 2022, il ne pourra pas aller au-delà de 2027, par exemple. Sous François Hollande, là, vous vous en souvenez peut-être, il y a une autre réforme importante qui a été faite, qui a été la réforme des régions. On avait en France métropolitaine 22 régions, on en a regroupé pour arriver à 13. Ça devait soi-disant permettre de faire des économies, de rendre des régions plus fortes, ben justement pour faire tous les aménagements, les travaux, les services qu'on leur a confiés. Dans la réalité, il semble que ça soit plus compliqué encore qu'avant. Donc, toutes ces évolutions-là transforment finalement le cadre politique des Français et expliquent peut-être pourquoi les Français sont aujourd'hui de plus en plus déçus par la politique. On pourrait dire, ouais, c'est le personnel politique qui n'est pas de qualité, peut-être. Mais les Français, ils ont surtout la sensation que Les gens qui nous dirigent, quels qu'ils soient, répondent pas vraiment aux attentes et aux sollicitations. Ce qui peut expliquer des mouvements comme par exemple le dernier en date, celui des Gilets jaunes, des mouvements de contestation qui manifestent contre justement un État qu'on trouve à la fois pas assez présent, pas assez à l'écoute des besoins des gens, mais en même temps qu'on juge trop présent parce que il y aurait trop d'impôts, il y aurait trop de taxes, trop de règles, etc., etc. Donc une contestation qui est un petit peu une contestation schizophrénique, dans laquelle on reproche tout et le contraire, tout simplement parce que finalement il y a une perte de confiance dans le politique. Ce politique, cette classe politique, quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche, elle essaye, volontairement ou pas, de faire évoluer la République en tenant compte des problématiques, des situations qui peuvent se présenter. Donc ici, le programme invite à évoquer deux ou trois points. Premier point, alors, quelque chose qui fait extrêmement débat et où on entend dire, excusez-moi de le dire comme ça, beaucoup de conneries, c'est la question de la laïcité. Laïcité qui est mise un petit peu à toutes les sauces pour souvent cacher des objectifs moins clairs et moins avouables. Le principe de laïcité, il faut le rappeler, c'est la neutralité politique de l'État. L'État veut bien qu'il y ait des religions dans le pays, mais il ne s'occupe d'en gérer aucune, il n'en finance aucune, et il ne se mêle pas du fonctionnement de ces religions. La tendance actuelle, le dévoiement actuel serait de demander à l'État de s'occuper, de mettre son nez dans les affaires des religions, au nom d'une défense de la République. Ce n'est pas le principe de la laïcité tel qu'il a été défini par la loi du 9 décembre 1905, que vous devez avoir déjà croisé à de nombreuses reprises. Cette laïcité, soyons clairs, il y a 20 ans, on en parlait très très peu. On en parlait très très peu. C'est au début des années 2000 que c'est quelque chose qui est revenu dans l'actualité avec ce qu'on appelait l'affaire des voiles. Les voiles, c'est ces voiles que portaient des jeunes filles musulmanes pour aller au collège ou au lycée. Et on considérait que les lieux scolaires étant des lieux laïcs, ces voiles posaient problème. Alors que jusque-là, les petites croix chrétiennes n'en posaient strictement aucun. Donc on est arrivé en 2004 à faire voter une loi qui interdit dans les établissements scolaires ce que l'on a appelé à l'époque les signes ostentatoires. Un signe religieux ostentatoire, c'est un signe qui se voit. Autrement dit, le truc que l'on visait, ça n'était pas la petite croix, ça n'était pas la petite étoile juive, c'était essentiellement le voile. Mais on ne pouvait pas faire une loi spécifiquement contre le voile. Donc on a imaginé cette astuce pour faire voter cette loi. Je n'en dis pas plus, il y a un article dans le dictionnaire là-dessus que vous pourrez aller voir. Ce principe de laïcité, il a été repris à nouveau dans une autre loi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2010 pour pénaliser les signes religieux dans l'espace public, ou plus exactement dans les lieux qui relèvent du secteur public, autrement dit, une préfecture, une mairie, etc. Mais on peut l'étendre à l'espace public, la rue, les magasins, etc., si on veut. Le principe de cette loi, là encore, c'est une loi qui vise spécifiquement les musulmans. Le principe de cette loi, c'est de dire que on ne peut pas être dans l'espace public en ayant le visage masqué. Dans la situation actuelle, vous remarquerez que si on faisait appliquer la loi, on finirait tous avec des amendes. Mais être masqué, c'était porter, là encore, le voile musulman, les différentes formes de voile musulman, parce que là encore, les gens ne font pas bien la différence. Et ici, il s'agissait tout simplement de viser le voile. Mais on ne pouvait pas prendre cette loi parce que c'était attentatoire finalement à la vie privée des gens. Et chacun est libre dans la laïcité de pratiquer la religion qu'il veut. Donc ils avaient trouvé dans cette loi de 2010 une astuce qui était de dire que il était interdit d'avoir le visage couvert dans un espace public, et ensuite, sauf. Et donc, les exceptions faisaient qu'à la fin, ne restait que le cas des musulmans portant des voiles dans l'espace public. Donc, on voit comment, dans ces années 2000, dans une volonté de lutte contre les musulmans, à une époque où il n'y a pas eu les vagues d'attentats que vous savez, on est arrivé à essayer de faire bouger le sens de la laïcité en en faisant quelque chose, une forme de défense contre une religion qui ne serait pas une religion républicaine. Donc le dévoiement finalement de cette notion de laïcité, il part de là, et on voit les conséquences vers lesquelles il nous a menés. Donc ça, c'est la première évolution, on va dire, juridique à mettre en évidence. Deuxième évolution juridique dans les lois de la République pour essayer d'aller vers plus d'égalité. Si tant est que les lois sur la laïcité favorisent l'égalité, c'est les égalités qui accordent de nouveaux droits. De nouveaux droits. Ici, deux exemples, et là encore, je passerai vite parce qu'il y a eu des articles qui ont été rédigés dans le dictionnaire là-dessus. Le premier concerne le PACTE, c'est-à-dire le pacte civil. De solidarité. Ce PACS, c'est la possibilité pour des personnes de choisir de passer un contrat par lequel ils déclarent une vie commune sans passer par le rite traditionnel du mariage, que ce soit le mariage religieux ou le mariage civil. La particularité du PACS, c'est que si deux personnes de sexe différent pouvaient en conclure un, il pouvait également être conclu avec des personnes de même sexe. Donc c'était une évolution qui, bien sûr, a été extrêmement combattue par des gens ayant des pensées très traditionnalistes en la matière. Le PACS, c'était la première fois où on imaginait de reconnaître que deux personnes de même sexe pouvaient vivre ensemble de manière tout à fait officielle et que ce soit reconnu et que, je ne sais pas, moi je prends un exemple très très banal, pour un suivi de carrière professionnelle, tenir compte du fait que monsieur machin vit avec monsieur truc, et donc si monsieur machin est muté quelque part, monsieur truc pourra le suivre. Voilà, ce type de choses-là qui étaient totalement infaisable avant le Pax. Le Pax pose problème, rentre petit à petit dans les habitudes, même s'il reste contesté, mais le Pax n'est pas le mariage. Le Pax n'est pas le mariage, et donc il faut attendre le quinquennat de François Hollande pour que soit institué par la loi Taubira ce que l'on appelle le mariage pour tous. Donc une première évolution en termes de droits, des droits qui sont plus larges et qui correspondent mieux finalement aux attentes d'une partie de la société. Autre problème qui là encore suit toute la période avec des progrès, mais des progrès assez limités quand même, c'est la question de la parité, et notamment de la parité en politique. Puisqu'on a constaté, c'était pas très très compliqué, que globalement, il y avait en matière politique une sous-représentation des femmes, que ce soit à l'échelon national, à l'échelon régional ou départemental, à l'échelon de la ville. Donc, des lois ont été votées, des textes ont été adoptés, on a imaginé que le meilleur moyen de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de femmes au plan politique, bah, c'était de frapper au portefeuille. Donc, loi sur la parité dit que, par exemple, sur une liste électorale, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Bon. Et si vous ne le faites pas, bah, vous êtes pénalisé par une amende. Donc, le parti candidat va être pénalisé par une amende. Bon. Ce qui amène à des comportements, là encore, peu républicains, qui consistent, par exemple, à mettre autant de femmes que d'hommes, mais beaucoup plus d'hommes sur le haut de la liste et l'essentiel des femmes sur le bas de la liste, sachant que le sommet de la liste a plus de chances d'être élu. Autre astuce, on fait des listes où on présente un ensemble de candidats dans lequel il y a plus d'hommes que de femmes, et on a déjà budgétisé la valeur des amendes que l'on va devoir payer puisqu'on n'a pas respecté la loi sur la parité. Alors, l'un dans l'autre, il y a quelques progrès de manière symbolique, sauf erreur de ma part, c'est sous François Hollande que on a mis en place pour la première fois des gouvernements dans lesquels il y avait autant d'hommes que de femmes. Ça a été globalement repris sous la présidence d'Emmanuel Macron. Rien ne dit que ça se poursuivra, ça n'est pas inscrit clairement dans la Constitution qu'il faut autant de ministres hommes que de ministres femmes. Là où ces débats sur la parité interroge, c'est qu'on a réfléchi sur la parité en politique, mais on se soucie finalement assez peu de résoudre les autres problèmes de parité, notamment dans le monde de l'entreprise. On le sait, à l'exception de quelques domaines comme le secteur public, les salaires des femmes sont inférieurs aux salaires des hommes. Les perspectives de carrière sont plus réduites. Il y a une chose qui est hyper intéressante à observer, par exemple, à l'université, c'est que plus vous montez dans les strates de l'université, moins il y a de femmes. Bon, c'est pourtant l'université un secteur public, donc qui devrait montrer l'exemple. Non. Parmi les étudiants, il y a beaucoup plus d'étudiantes qui passent des thèses, vous avez plus d'étudiantes. Au niveau des maîtres de conférences, ah, ça commence à s'équilibrer. Au niveau du statut de professeur des universités, là, ça a basculé, il y a plus d'hommes. Et alors, quand vous regardez qui est à la tête des universités, la plupart du temps, ce sont des hommes. Mais si vous allez dans les entreprises privées, si vous regardez la composition des conseils d'administration, ben vous vous rendrez compte que là, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans la parité. On touche là à ce que l'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire le fait que à un certain niveau, la possibilité pour les femmes de monter plus haut, ben, elle n'existe pas ou elle n'existe quasiment pas. Donc, ça devrait être pourtant un principe républicain de base. Dans la réalité, on se rend compte que ça n'est pas le cas. Donc cette République française, si on fait le bilan, elle s'est transformée, évidemment, depuis les années 90 pour s'adapter au monde dans lequel on vit. Mais ces transformations, outre qu'elles sont repoussées, rejetées par certains au nom du traditionnalisme, de certaines valeurs, ces transformations, elles sont également critiquées par d'autres qui trouvent qu'au contraire, ça ne va pas assez loin. La remarque qu'on peut faire, c'est quand même qu'on a une République française qui apparaît moins solide aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Un régime qui, pour certains, est considéré comme à bout de souffle, une Ve République qui n'est plus adaptée. La crise sanitaire tendrait, pour certains, à le montrer, puisque on se rend compte que le président de la République prend des décisions quasiment comme il l'entend, en écoutant les conseillers qu'il veut bien entendre, et même en court-circuitant une institution essentielle qui est le Conseil des ministres, puisque en matière de lutte contre la pandémie, tout se décide dans un cadre nouveau, qui est le cadre du Conseil de défense, qui est une structure informelle, qui n'est pas prévue par la Constitution, ce qui peut amener évidemment à s'interroger sur le côté démocratique, institutionnel de cette nouvelle façon de procéder. L'expérience montrant que une fois qu'on a pris des habitudes, c'est souvent très compliqué de revenir en arrière. Donc pour les futurs citoyens que vous êtes, c'est là des pistes de réflexion à avoir. Quelle doit être la République dont on a besoin en France, une République adaptée au XXIe siècle et qui ne reste pas prisonnière finalement de ses origines, je boucle la boucle, un général extrêmement célèbre, extrêmement aimé des Français, qui en 1958, au milieu de la guerre d'Algérie, crée un système que l'on a longtemps qualifié de monarchie présidentielle et qui en garde encore aujourd'hui un certain nombre d'aspects.